Résonance magnétique.
Prenons une question ridiculement naïve qui nous envoie tout de suite dans les tréfonds des rayons de développement personnel des supermarchés de la culture. Une question stéréotypée par les magazines, qu'ils soient féminins, de psychologie ou de méditation. Une question honteusement clichée avouée à demi-mot quand il s'agit d'expliquer pourquoi on quitte un travail pour se lancer dans un projet créatif. Comment donner ou redonner du sens à sa vie? Sur internet, la question est récurrente. Donner, trouver, chercher un sens à sa vie. Trois domaines, quatre règles d'or, six conseils, 20 minutes sans prière pour donner, trouver, chercher, redonner un sens à sa vie. Mais déconstruisons tout de suite l'emballage de la question, dépassons l'embarras qu'elle suscite et demandons-nous ce qu'elle signifie vraiment. Comment donne-t-on du sens à sa vie? Comment donne-t-on du sens à une vie? Si l'existence précède l'essence, comme le dit Jean-Paul Sartre, alors nous sommes ce que nous faisons de nous, nous sommes ce que nous choisissons de faire, dire ou produire. Nous sommes ce que nous écoutons, nous sommes ce que nous lisons, nous sommes ce que nous voyons, découvrons, rencontrons. L'existence précède l'essence, nous sommes en perpétuelle construction de nous-mêmes, éternels travaux d'aménagement et de rénovation. On construit une petite mezzanine, on renforce les fondations, nos lectures, nos écoutes, nos rencontres augmentent notre conscience. Sachant cela, qui ne serait pas angoissé, comme le dit Sartre encore une fois, si chacun de nos choix nous définissent, comment alors ne pas subir l'angoisse de ce choix? Comment donner du sens à sa vie? Comment nous construisons-nous et augmentons-nous notre conscience? C'est à ces questions que nous essaierons de répondre avec notre invité de ce soir, Gaëlle Olson. Bonsoir.
Bonsoir.
Gaëlle Olson, qui après un passage par la médecine puis une carrière dans l'architecture, a récemment décidé de donner à sa vie un nouveau sens, un sens artistique, sans rejeter pour autant les choix sur lesquels elle s'est construite. Elle développe aujourd'hui une approche abstraite et décontextualisée d'un monde vivant, alliant vue microscopique et vision panoramique d'éléments fondateurs du paysage. Tout un programme. Et puis nous avons le plaisir de retrouver ce soir Philippe Ducas.
Bonsoir.
Qui nous propose... Bonsoir Philippe. Bon. Qui nous propose d'entrer dans l'architecture de l'œuvre d'Éric Dolphy, qui s'est construit au contact d'autres œuvres. On va voir tout ça avec lui. On aura du John Coltrane, Ornette Coleman, etc., etc. En studio avec nous ce soir, on a Joséphine Ducas qui est par là-bas, qui sera notre discothécaire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, et puis Étienne Bertin qui sera notre technicien réalisateur. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter au 01 72 63 46 84. T'arrives à le répéter avant de show, va ?
Pourquoi tu parles si vite en modulant si peu?
Eh bien, peut-être parce que nous faisons de la radio.
Et pourquoi est-ce qu'il faudrait parler vite à la radio?
Ah ben je ne sais pas.
On n'a qu'une heure, mon vieux.
C'est ça, 1h30, c'est court, il faut y aller, quoi, un peu là. Un peu de dynamisme. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter au 01 72 63 46 84 si vous voulez partager avec nous ce qui vous construit ou pour nous donner quelques conseils pour redonner sens à notre vie à tous.
Surtout que nous avons un concours.
Ah oui, on a un concours. C'est quoi le concours?
Je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. Il va falloir deviner de qui c'est.
Et on gagne quoi?
Ça, c'est la surprise.
Ça fait rêver, je pense, tous nos auditeurs.
Mais pour parler sérieusement, en venant, j'ai vu des affiches de cinéma sur lesquelles il y avait des visages. Il y avait des visages d'un monsieur qui s'appelait Boom, je crois. Danny Boom.
Boone.
Un autre... personnage qui s'appelait, je crois, Jean Dujardin,
oui.
Voilà. Et leur visage n'exprimait vraiment rien. Aucune conscience. Donc je me suis dit, comment ça se fait que ces gens-là sont sur des affiches alors qu'ils n'expriment absolument rien? Ça ressemble aux jeunes premiers des années 30 ou des années 40 du cinéma, qui étaient des grandes vedettes à l'époque, mais qui n'exprimaient rien.
Enfin, eux, c'est les jeunes derniers, quand même.
Alors, ils sont plus tout jeunes, quand même, Danny Boone et Jean Dujardin. Non. On sait très bien que tu es un peu vieux, Ramon, mais quand même, ils sont un peu si jeunes que ça. C'est pas si
non,
vieux que ça.
Et puis pour parler, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas parler de la COP21, donc je vais en parler.
Bien sûr. Tu me fais peur.
Non, mais l'histoire de la bonne conscience, parce qu'il y a plein d'entreprises qui se font une bonne conscience en disant on va être écologique, comme des politiques qui disent qu'on va essayer de faire un monde meilleur. Mais la bonne conscience, elle ne s'achète pas, elle se construit. Comme l'éthique, l'étiquette. Donc il faut être à la quête d'un éthique, quoi.
Ou à la caquette d'un éthique.
Ah, ça, ça n'engage que toi.
Vous êtes donc bien dans Résonance Magnétique et on a avec vous jusqu'à 22h30.
Et c'est pas fini parce que j'ai encore plein de choses à dire. Elle essaye de m'interrompre.
Et il a plein de choses
vous,
à dire.
Vous remarquez ?
Ah non, on voulait juste terminer cette introduction. Mais d'accord, c'est pas d'accord. Grave. Continuons.
Non, mais je veux bien m'interrompre.
Interrompons-nous alors.
Avec quoi ?
Avec ça.
Waouh, c'est de la musique.
Résonance magnétique. Résonance magnétique.
Il est bien ce générique, non ?
Ouais. Ce jungle.
Ce petit jungle est parfait. Merci Étienne pour ce petit jungle parfait.
C'est chaud, je t'en prie.
Alors du coup, on continue, Ramoncho, pardon, on t'a coupé. Donc vas-y, tu voulais cracher sur la COP21.
Non, pas du tout, non, je parlais de la bonne conscience et de l'histoire de la conscience. Alors est-ce qu'on peut construire une conscience ? Et moi j'ai l'impression que la conscience se construit avant tout à notre âge le plus fragile, sensible, c'est-à-dire à l'adolescence quand on découvre la musique. Mmh. Et si on découvre des musiques très différentes, finalement on se construit une conscience assez ouverte, flexible. Alors que si on écoute des musiques étroites...
Alors qu'est-ce qu'une musique étroite ?
Mais qu'est-ce que c'est qu'une conscience d'abord ? Est-ce que la conscience, c'est se mettre dans l'autre pour pouvoir choisir la conscience qui nous correspond le mieux ? Si on prend par exemple la chanson de « Elle ne suit pas là ». Alors Joséphine
galope, Joséphine, merde !
Elle trottine. Si on prend cette chanson que j'ai amenée, qui essaye de c'est qu'elle est un personnage, un chansonnier français qui essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et par la musique on arrive à se transposer dans la peau de quelqu'un assez bien. Je ne sais pas, est-ce que quand on regarde un Léonard de Vinci, on est Léonard de Vinci ?
Non, je pense pas.
Alors Sarkozy musique... vient de dire par exemple que quand on regarde des sites de djihadistes, on devient djihadiste.
Alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire djihad ?
Oui, ça n'a rien à voir avec la manière dont on le conçoit aujourd'hui.
Le djihad, ça veut dire être vigilant envers soi-même.
C'est aller faire un chemin pour soi.
Oui, donc vous voyez la manipulation de la conscience collective quand même. Alors donc, la chanson va arriver. Je ne vais pas la stresser, mais je te donne encore 2 secondes.
Qu'est-ce que c'est d'avoir ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce
de
qu'on
la conscience ?
Non, ce morceau qu'on va écouter.
Mais j'espère que tout le monde le connaît, c'est quand même un gros classique.
Le temps que Joséphine
c'est
le mette...
C'est le numéro 3 de la face 1.
Oui.
Ça pour lui donner un coup de main. C'est un disque en vinyle parce qu'aujourd'hui nous allons écouter exclusivement du vinyle. Tu vois, je commence à avoir le tic de la rapidité.
Tu vois.
Donc en fait, on est influencé par la radiographie mentale.
La conscience est manipulée.
Alors, ça peut partir. You wheels on the cat. Hey, you drop me your James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous. Mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à la cuisse et pour en brûler de temps en temps. Et moi je vais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Les élus et vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui,
Dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune. Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous.
Merci, merci, merci. Alors on me demande de faire la désannonce, ça veut dire qu'on fait les choses à l'envers.
C'est ça.
Donc en 1966, c'est Nino Ferrer qui écrit « Je voudrais être un noir ».
Résonance magnétique. Alors pourquoi ce morceau pour commencer cette émission, Ramoncho?
Ben parce que par la musique, on devient autre. Je pense qu'on s'identifie d'abord à certaines musiques par désir d'avoir un espèce de grand frère idéal ou grande sœur idéale. Pourquoi les filles adorent écouter Barbara? De mon temps, hein, de mon temps.
Et putain, oh, les filles adoraient.
J'ai l'impression qu'on s'identifie comme une espèce de famille idéale par les musiques qu'on choisit, et qu'en disant je veux être un noir, on peut par la musique essayer d'augmenter notre conscience. On parle de réalité augmentée avec ces choses numériques qui sont plutôt pitoyables au niveau de la réalité, mais il y a peut-être une conscience augmentée qui s'acquiert par l'écoute de choses diverses, encore plus que par des choses qu'on regarde, que des choses qu'on lit, parce que ça passe par l'œil. L'oreille, c'est quand même la seule chose qu'on ne peut pas fermer. Donc peut-être qu'il y a une façon d'augmenter notre conscience, et si peut-être dans les écoles on faisait écouter des musiques très différentes, on irait vers une société peut-être plus tolérante. Mais je voulais donc parler de cette question de se construire pour aborder la question de l'architecture, car nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir une architecte.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut dire encore une architecte? Tu es encore architecte, Gaëlle?
Oui, je pense un peu.
Voilà, elle l'a dit.
Elle l'a dit.
Voilà. La différence entre un architecte et quelqu'un qui n'est pas architecte, qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'architecture qu'on n'apprend dans aucune autre école au monde? On apprend à penser. Et elle a dit, oui, je suis architecte, je pense.
Vaste programme.
Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est la seule école dans le monde où on apprend à penser quand on est architecte, hein? Quand on apprend à être architecte?
J'espère que non pour les autres. Mais, oui, besoin d'idéal certainement, à travers la musique ou à travers des rencontres. Il peut y avoir des idéaux qui sont aussi incarnés.
Et des idées bas aussi.
Pour ma part, c'est une série, on a l'impression de faire un virage à un moment donné, et puis finalement on se rend compte qu'on est stratifié. Moi j'y vois six étapes assez constructives, mais liées à un certain nombre de rencontres humaines sur finalement l'aboutissement aujourd'hui d'un travail artistique. Sur un langage qui a été nécessaire au départ du dessin, et un langage qui est basé sur un signe et l'espace. Et finalement, ce signe et l'espace sont un peu le résumé de ces six strates qui m'ont construite finalement depuis l'enfance, sans m'en rendre compte, en préparant l'émission. Comme ça, je me suis rendu compte que, voilà, plutôt qu'un virage, c'est un millefeuille.
Et alors, c'est quoi ces six strates, Gaëlle?
Alors, si on peut détailler assez rapidement, parce qu'on ne va pas...
On a envie de passer une heure et demie,
À raconter mes histoires.
Nous
sommes avec des amis.
C'est ça. Non, on peut parler de l'enfance qui est toujours assez constructive et qui peut passer par deux personnalités qui sont mon arrière-grand-père Olsen, qui était un Danois que je n'ai jamais connu mais dont je porte le nom, et qui est venu à pied du Danemark. C'est un peu une légende pour moi parce que c'est la seule chose que je sais de lui.
Il est venu à pied du Danemark
jusqu'en France.
D'accord.
Voilà. Et je pense que ça m'a marqué dans une espèce d'approche d'endurance comme ça, de la lenteur, du long terme, de... Et la deuxième personne, donc ça c'est le côté paternel, la deuxième personne marquante du côté maternel serait mon grand-père qui lui a construit sa maison en commençant par construire un moule à parpaing. Et avec son vélo et sa carriole, il est allé chercher le sable aux sablières de la Seine et mouler ses parpaings par un, avec un groupe d'amis, construit sa maison module par module, ensuite la charpente, puis tous les meubles, puisqu'il travaillait le bois. Voilà. Donc une espèce d'approche comme ça du fer, de la matière et du travail manuel, dans le temps, dans la répétition, et qui sont deux figures un peu légendaires qui sont une première strate marquante dans l'enfance sans s'en rendre compte forcément, quoi.
Alors ça, c'est le travail artistique qui t'a permis de revenir un peu à cette strate. Est-ce que c'est des choses que tu avais...
Alors c'est des choses qui n'étaient pas du tout conscientes, dont j'ai pris conscience presque aujourd'hui, pour celle-là en tout cas, en épluchant mes strates. La deuxième, j'en avais plus conscience, c'est la découverte de la génétique au moment du lycée, avec une orientation bac D, mathématiques et sciences de la nature. Avec
un bac S aujourd'hui, on dirait.
Oui. Merci Mélanie. Et une rencontre d'un professeur qui avait envie de s'investir, qui était à un an de la retraite et qui finissait son enseignement, et passionné de génétique, et qui m'a transmis ça. Et finalement, à travers cette approche de la génétique, j'ai vu l'humain différemment, à deux échelles, où d'un seul coup, vous avez une personne en face de vous et en même temps un karyotype, à une vision microscopique, et avec toute une approche de juxtaposition comme ça, des échelles où vous avez une partie des chromosomes de votre père, une partie des chromosomes de votre mère, selon une combinatoire comme ça infinie, et ça forme un tout qui est vous.
Et ça forme le tout vous.
Et ça forme le tout vous qui peut être autre aussi.
Non, mais c'est ça la question de la génétique, parce qu'il y avait ce personnage qui s'appelait comment, Maturana, Umberto Maturana, qui était un biologiste qui a travaillé sur l'autopoïesis, notre capacité à modifier nous-mêmes notre code génétique.
Ah oui.
Alors il a été viré de l'ordre des biologistes en 1971. Et après, il a été réintégré il y a 2 ans, parce que finalement, ce qu'il dit n'est pas totalement faux.
Alors, comment on fait pour manipuler soi-même son propre code génétique ?
Je pense qu'il faut écouter Eric Dolphy pour ça.
C'est une bonne transition. Écoutons Eric Dolphy. Alors, Philippe, tu as donc choisi quelques morceaux d'Eric Dolphy.
Oui, parce qu'on parle de la génétique, en fait. La génétique d'Eric Dolphy aussi.
Oui, parce qu'il se modifie au contact d'autres musiciens. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la figure d'Eric Dolphy, qui est né le 20 juin 1928 à Los Angeles et mort le 29 juin 1964 à Berlin.
Un jour plus tard, c'est-à-dire
Non, il est né en 28, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Oui,
non,
mais
au niveau du juin.
Juin, oui, il est mort
un jour
plus tard, mais quelques années après quand même.
Mais est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte ?
Bon,
peut-être qu'il a fait ça en un jour.
Et donc, c'est comme tout le monde le sait, un saxophoniste légendaire, au son reconnaissable entre mille. Compositeur et interprète génial. Donc ce musicien d'exception a joué enregistré avec les plus grands musiciens de son époque, de Chico Hamilton à Gunther Schuller, d'Olivier Nelson à Ken McIntyre, d'Andrew Hill à Freddie Hubbard. Et ce soir, donc, on va évoquer...
Je vous rassure, aucun nom n'est connu dans mon fichier mental.
C'est rassurant. Bah, on va peut-être les... Non, on les entendra pas, ceux-là. Voilà. Peut-être Nelson, Schuller, si on va l'entendre. Et ce soir, donc, on va évoquer l'architecteur intérieur de ce musicien.
L'architecture
intérieure et extérieure de ce musicien. Son évolution musicale propre suite aux rencontres avec d'autres musiciens, grâce à des échanges fructueux pour chacun, sans calcul, au-delà des querelles d'ego, ce qui semblait ne pas avoir cours avec Dolphy. Donc, le premier morceau que nous allons entendre est Wednesday Night Prayer, tiré de l'album de Charles Mingus Live in Antibes, un enregistrement du 13 juillet 1960. Premier travail régulier, c'est Chico Hamilton qui me l'a donné. Mais la liberté dans un travail régulier, c'est le cadeau que m'a fait Mingus, disait Eric Dolphy. En 1959, Charles Mingus entraîne Eric Dolphy dans son univers. Mingus revendique la truculence du blues, elle nourrit ses positions antiracistes virulentes. Malgré tout, Mingus restera toujours préoccupé par les structures musicales savantes et plus particulièrement celles de Béla Bartok. En réaction au free jazz qu'il ne porte pas dans son cœur, Mingus entretiendra un grand orchestre à la manière de Duke Ellington, le Jazz Workshop. Charles Mingus fut pourtant un grand novateur dans d'autres domaines que ceux explorés par le free jazz, avec certaines préoccupations esthétiques semblables. Polyphonie spontanée en alternance avec de savants contrepoints, variations brutales de tempo, changements de mesure et de timbre inouïs, d'une extrême originalité. Chez Mingus, Eric Dolphy va pouvoir développer et imposer sa conception discontinue de la ligne mélodique sous forme de violentes brisures et de ruptures magistralement contrôlées.
C'est bien.
Donc nous avions écouté Wednesday Night Prayer, qu'on a été obligé de chanter parce que le morceau est très long. Pardon. Il est tiré de l'album Charles Mingus, donc Live in Antibes, un enregistrement du 13 juillet 1960.
Antibes, voilà. À la Nouvelle-Orléans, c'est ça ?
Antibes à la Nouvelle-Orléans, oui. Sur la Côte d'Azur.
Et on continuera donc à suivre un peu l'architecture, oui, de la conscience et de la, voilà, musique de Dolphy.
C'est-à-dire qu'il va rencontrer d'autres personnes qui vont modifier encore sa façon son évolution. En fin de compte, on a effectivement la modification génétique d'un musicien par lui-même.
Mais alors finalement, est-ce qu'on doit se débarrasser ensuite des gens qui nous ont permis de nous construire pour continuer à avancer, ou est-ce qu'il faut au contraire conserver le travail qu'on a fait grâce à eux, avec eux, pour continuer à avancer? Comment ça se passe?
Ce qui tombe plutôt bien avec Mingus, qui est avec Dolphy, c'est qu'il a évolué, il a rencontré après, bon, on entendra Ornette Coleman, John Coltrane, etc. Et à la fin, il a toujours joué avec Mingus, c'est-à-dire qu'il est toujours revenu avec lui, malgré tout, il a fait des albums solo, mais il conservait tous ces gens dans son cœur et dans son amitié.
Dans sa musique.
Il a joué avec Chico Hamilton très, très longtemps après, alors que Chico Hamilton faisait une musique totalement différente de la sienne. Donc c'était... Non.
Alors est-ce qu'on revient mentalement vers nos premières histoires d'amour, vers la première histoire d'amour?
J'espère
avec une
pas,
espèce de nostalgie de ce que la vie aurait pu être.
Alors ça... Pas.
Personne n'a de réponse ici. Tout le monde a l'air circonspect.
Et Gaël, pour toi, tes vies antérieures, est-ce que c'est des cadavres? C'est-à-dire des choses que tu as abandonnées dans les méandres de l'évolution, ou c'est des gardes du corps qui font toujours partie de ta conscience?
Non, je pense que dans le passage d'une...
Elle a dit non aux deux, en fait.
Dans le passage d'une période à une autre, il y a toujours une rupture, donc c'est vrai qu'on a tendance à balayer un peu vite ce qui s'est passé, mais finalement ça reste là sans qu'on s'en aperçoive. Et puis comme aujourd'hui où je me rends compte d'une vieille strate sur la lenteur qui a peut-être été là et qui m'a nourrie assez profondément, et je pense que effectivement ça passe par une rupture et en même temps une permanence.
C'est quelque chose qui reste dans ton inconscient. Quand on parle de la conscience, on est un peu obligé de parler de l'inconscient qui est de l'autre côté.
L'inconscient ou le deux conscients? Parce qu'il y a l'inconscient comme s'il était qu'un, mais moi je crois qu'il est deux ou trois.
Je pensais que tu faisais référence au sketch des Inconnus, tu sais,
non,
inconscient et subconscient et deux conscients et subconscient.
Mais non, mais il y a aussi le surconscient.
Oui.
Et le sous-conscient. Mais alors la conscience, comment Gaël, l'architecte, pourrait définir qu'est-ce que c'est que la conscience? Petite question, c'est facile à régler.
Bah écoutez, en direct comme ça, c'est très simple d'y répondre.
Ouais.
Peut-être, je peux avoir un petit coup de main.
Vas-y, allez, tu voulais raconter, vas-y.
Non, j'avais rien de spécial à raconter, j'aimerais bien vos définitions. De toute façon, la vérité n'existe pas, la vérité est un mythe.
Ah bah oui, chacun a une vérité, plusieurs vérités.
Chacun a de multiples vérités, oui, extrêmement
en
contradictoires,
plus.
C'est pour ça que c'est très difficile de vivre avec une personne, parce qu'on est forcément avec une de nos consciences. Et avec la surveillance de cette conscience qui ne doit pas déborder.
Mais la conscience est affreuse, ça veut dire qu'on est toujours lucide, qu'on est toujours en train d'analyser parfaitement ce qu'on fait, ce qui est absolument impossible.
En tout cas, dans les contes pour
enfants,
merci. Dans les histoires pour enfants, la conscience, elle a toujours une forme humaine. Par exemple, Jiminy Cricket,
Jiminy Cricket, pour
Pinocchio,
oui.
qui est là pour lui rappeler ce qu'il doit faire,
la
ses valeurs.
La coccinelle chez Monsieur Gottlieb.
Exactement, et toujours cette conscience comme ça personnifiée.
Bah, parce qu'il y a une grande confusion entre conscience et rationalité, peut-être. Peut-être qu'on pense que l'intelligence de la logique est séduisante et qu'elle pourrait nous prémunir contre toute attaque d'irrationalité, alors que les attaques d'irrationalité sont nécessaires pour nos évolutions. Toi-même, tu as glissé donc de la médecine
à l'architecture.
Alors,
oui.
Est-ce que c'est un glissage vers le bas ou vers le haut?
Ben, on voit toujours ça comme un glissement vers le haut.
Donc on peut tomber en haut vers le haut.
Oui. Elle s'est peut-être spécialisée dans l'architecture des cabinets médicaux. Non, c'est...
Ou des sièges éjectables.
Non, donc il y a eu ce passage vers l'architecture qui m'a ouvert sur l'espace et sur le manifeste aussi. qui était une étape que je ne connaissais pas.
Le manifeste politique.
Le manifeste, oui, il peut être politique aussi. Pour le coup, il était architectural.
Oui, local en particulier.
Non, la pensée manifeste, en fait, d'aller jusqu'au bout de quelque chose de façon très entière, sans contrainte. Et en même temps réussir à concrétiser une pensée entière.
Mais pourtant, il y a plein de contraintes chez les architectes.
Oui, mais alors le manifeste architectural, c'est une production très atypique et qui ne répond pas forcément à une commande issue d'un règlement de normes ou d'une production assez courante du bâti, mais qui répond à un maître d'ouvrage assez ouvert et qui permet l'expérience et du coup l'ouverture vers de nouveaux espaces ou une mise en œuvre et d'aller jusqu'au bout d'une pensée comme ça en la construisant, ça a marqué aussi une étape supplémentaire par rapport à ça. C'était plutôt la première période des études d'architecture où on travaille comme ça dans une espèce de feuille blanche sortie de toute contrainte.
Et c'est la représentation d'un espace intérieur, d'un possible intérieur, ou pas ?
Ou pas.
Et pourtant, ce que tu me confiais, quand on a... Parce qu'on va le dévoiler, hein, mais...
Vous connaissez ?
Oui, on se connaît, figure-toi.
Mais ça, c'est dégueulasse, on avait dit qu'on travaillait qu'avec des inconnus.
Puisqu'on ne la connaît pas si bien que ça, finalement, Gaëlle. Gaëlle expose...
Elle se dit « on » quand même, elle se traite de « on ».
Je te mets dans la
sphère.
Dans le groupe.
Ah, mais tu la connais aussi ?
Mélanie, non.
Donc Gaëlle, tu me confiais
qu'effectivement... D'ailleurs, il faut arrêter de se tutoyer, d'ailleurs.
Tu as pris un virage un peu artistique et tu es revenu à un dessin qui n'est pas un dessin architectural parce que justement tu avais besoin de te détacher des limites que t'imposait l'architecture et de normes. Des tonnes de normes qu'il faut respecter quand on pense l'architecture et la construction d'un bâti. Alors justement, comment est arrivé ce moment où tu t'es dit « bon, j'ai plus envie et je veux passer à autre chose, à quelque chose de plus créatif, à un dessin, à quelque chose d'artistique ?»
Alors, il y a une étape assez marquante aussi, c'est la deuxième période des études d'architecture. Non, je parle de ça par rapport à cette réponse, parce que c'est comment ne pas répondre à un programme et comment passer à une autre échelle, qui a été la rencontre avec Alexandre Fémétoff, où là, il a bouleversé la façon d'enseigner en disant, on ne répond plus à un programme, on étudie un lieu, et à partir de ce lieu, on se demande... ce qu'on pourrait y faire dans l'idéal. Donc ça a été aussi un changement d'échelle vers le territoire, la production de documents stratifiés d'ailleurs, où on superpose les cartes comme ça, historiques. On apprend à regarder l'existant à travers sa formation historique et géographique, etc. Et puis, du coup, une pratique pendant 15 ans, comme tu le dis, sur l'espace public et le paysage, l'aménagement du territoire, etc., qui m'a porté beaucoup parce que, au départ, guidée par cet enseignement. Et puis, assez intéressante dans la pratique parce que, d'un seul coup, il y a des réunions à 20 personnes et ces 20 personnes sont chacun très spécialisées. Donc un regard sur un projet urbain vu du point de vue des transports, du point de vue... Et donc ça fait une réunion avec 20 regards comme ça juxtaposés et nous, en tant que maître d'œuvre mandataire, où on doit réceptionner un peu cette multiplicité de regards et en faire un tout, un projet. Donc ça m'a versé pendant 15 ans. Et malgré tout, au bout d'un moment, comme tu dis, il y a eu un poids des outils réglementaires, normatifs, qui m'a posé un peu problème dans la production. Et donc j'ai décidé d'arrêter sans savoir où j'allais, mais en essayant de faire autrement. Après cet arrêt, au bout de 3 mois, j'ai eu envie de mettre un langage au point. Et je cherchais un langage très, très essoré, qui reviendrait à un commencement comme ça du dessin. Comment je peux commencer à dessiner ? J'avais très envie de dessiner, mais j'étais démunie. Et c'est passé par la mise au point d'un langage. où j'étais assez attirée par la répétition et je voulais répéter un signe et j'ai mis au point un signe a posteriori qui ressemble à un chromosome, mais je ne l'ai pas vu au départ, et qui m'intéressait parce que... Et qui m'intéressait parce qu'il était, il reprenait cette histoire des parties et du tout, c'est-à-dire que c'est comme une figure un peu humaine qui est autonome et quand un autre lui fait face, recrée une entité. Donc il y avait cette espèce d'ambiguïté sur moitié, entité, à partir de quelle distance ça reforme un tout, à partir de quelle distance les deux parties redeviennent autonomes. Et donc j'ai commencé à produire des dessins et petit à petit des diptyques, petit à petit installer ces dessins dans l'espace et donc avec un mélange de signes, d'espace, des sujets qui allaient du microscope à la grande échelle qui reprenaient des thèmes de montagne, de paysage. Et puis maintenant, j'en suis à un stade où du dessin en deux dimensions, je l'installe dans l'espace pour le remettre à plat à travers un travail photographique. Donc finalement, ces strates dont je parlais tout à l'heure, de façon inconsciente, prennent forme. Et voilà, en pensant à une rupture, finalement, on se rend compte que c'est une construction progressive. Et
à plusieurs étages.
À plusieurs étages.
Donc... Philippe, si nous choisissons d'être en 1961...
En 1961 ?
Que choisiriez-vous comme type de musique ?
Alors d'abord, nous sommes en 1960, avant de passer en 1961.
Ah,
pourtant, je vous ai demandé une indication tout à l'heure si le morceau était allait bien être le suivant, et vous m'affirmez que c'est le précédent. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ?
Mais vous ne voyez rien, vous ne voyez même pas les signes que je vous ai
fait. Je vous ai fait des grands signes.
On dirait Radio Campus Paris 40 ans après.
Oui, c'est ça. Non, nous allons... Non, on va écouter un morceau du 15 août 1960, qui s'appelle The Baron.
Donc il fait chaud.
Qui est tiré de l'album Outvert de Eric Dolphy. Donc c'est un album en solo qu'il a fait donc juste après son passage chez Mingus.
C'est un des disques indispensables à avoir avec soi.
Celui-là, oui.
Et Joséphine Akiès.
On en parlera plus tard. On va voir comment
la pochette est très belle. Regardez la pochette.
La pochette est pas mal. Je vous la montre.
Voilà.
Vous la voyez.
Voilà. Il est en maillot de bain.
Voilà.
Parce qu'on est en août.
Et donc
à l'époque, ça a fait un scandale parce que voir un noir en maillot de bain sur une pochette de disque,
terrible.
C'était très difficile.
On va l'écouter.
Mais c'est pas la pochette originale,
c'est
là.
Comment ça, c'est pas la pochette
originale? Il n'y a pas de noir en maillot de bain sur cette pochette. Thank you.
Dire c'est le paradis.
Ah, Eric Dolphy, oui, évidemment. Existe.
C'est Eric Dolphy.
Donc Eric Dolphy, moi j'aime bien le qualifier comme musicien cubiste. Son jeu est heurté, il explore absolument toutes les facettes d'un morceau. Et le son est âpre, sec, virevoltant. Ça ressemble à la fois à une architecture gothique,
d'ailleurs,
tout
une
en
fois,
ornement
j'étais...
et digression.
Une fois j'étais chez le coiffeur.
Eric Dolphy chez le coiffeur.
Et le coiffeur me dit, vous savez, j'ai une activité à côté. Je dis, oui... Passionnant. Et il me dit, écoutez, je suis cubiste. Je dis, ah tiens, un cubiste, c'était à Venise. Et il me dit qu'il fait ça en général le vendredi soir, parfois le samedi soir. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est, quelle expression d'être cubiste? Mais il me raconte que c'est vraiment entrer dans une autre dimension. Et je découvre peu à peu qu'en fait, il danse sur un cube. C'est ça qu'il appelait être cubiste.
Bon,
excuse-moi de t'avoir interrompu.
Non, non, mais.
J'aurais beaucoup voir quelqu'un danser sur un cube.
Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être mal. Oui. Picasso dansait sur un cube, peut-être.
À une époque.
À une époque. À une époque.
Après, il a.
Dansait plus sur les cubes.
Allez, continue.
Non, ça y est, écoute, voilà. Après, il y aura un autre morceau. On va explorer le Third Stream. Comme tu peux. Enfin, il a rencontré. Après, Eric Dolphy a rencontré d'autres personnes qui l'ont fait changer, etc.
Mais là, d'abord, on a un concours. Est-ce que tu peux le rappeler? Parce qu'il faut rappeler. Mais souvent, tu sais, nos auditeurs, ils nous
alors oui,
pas
alors j'ai un concours. À un moment donné, ce que je vais dire ne sera pas de ma conscience, mais de la conscience d'un autre. Et le concours consiste à donner l'identité de cette autre conscience. Donc tu me diras, Mélanie, à quel moment on fait le
maintenant.
Maintenant. Mais il faudra que les gens appellent pour dire qui c'est.
Bah oui.
Ils auront le temps de saisir leur
on
téléphone.
On va leur donner le numéro de téléphone déjà.
Alors le 0...
1.
1.
72.
72.
63.
3.
46.
6.
84. 01, 72, 63, 46, 84.
J'ai rien compris.
01, 72, 63, 46, 84. Faut nous appeler. Et alors, moi, je vais lire quelque chose.
Quelque chose.
Tu vas te travestir.
Voilà. Alors.
01 72 63 46 84, vous gagnerez un super beau cadeau.
Ah, ben oui,
le cadeau au chocolat.
Exceptionnel. Alors, l'année maudite. Année maudite, année collée, année nausée, année qui en est 4, qui en est 5, année qui sera bientôt toute notre vie. Buveuse, taraudeuse, ornée de bernets. Année, la narine au vent, mais rien ne vient. Souffrance sur ta coque vide. Anxiété sur ta coque vide, famine sur ta coque vide. Année, 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 que nous annonçons sans fin, compagnons de la cendre, des débris calcinés, poursuivis de plis, poursuivis de plaies. À quand ton vin, singeuse de grandeur, mal balancée, balancée de ci, de là, d'ici à là, s'échappera-t-on jamais de toi? Alors.
Il y a déjà... Résonance magnétique.
Voilà, à vous de trouver maintenant, à vous de jouer. Ça a l'air compliqué.
C'est fastoche, il y a une piste dedans, mais qui est...
Tu pourrais donner un petit indice comme ça, là.
Je pourrais donner un indice.
On pourrait jouer au post-it, tu sais.
Bah, c'est quelqu'un.
Que tu es un homme.
En fait, j'ai choisi ce poème à cause de la conscience du signe de Gaël.
D'accord, Gaël, est-ce que tu sais
et de la
qui a écrit ce texte?
Et de la matière...
Gaël ne gagnera pas le magnifique palmier qui est dans ses studios.
Et de la matière extrêmement subtile qui anime Eric Dolphy. Parce que dans la question de la conscience, il y a la chose qui nous anime. Cette conscience, c'est peut-être un flux qui passe parfois d'une personne à l'autre. C'est peut-être de là d'où naît la question de l'histoire d'amour. C'est qu'à un moment donné, il y a ce flux qui passe d'une conscience à une autre.
Spirit.
On pourrait l'appeler conscience, on pourrait l'appeler aussi esprit, justement.
White spirit.
White Spirit, Et Spiritum, Taratum, Taratitutum.
Tout à fait. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 01 72 63 46 84 si vous avez la réponse.
Il y avait le signe, la subtilité du signe. Enfin, c'est fastoche. Pour celui qui sait, c'est toujours fastoche
pour celui qui sait. Et si vous ne savez pas, vous pouvez quand même nous appeler. On ne sait jamais, peut-être qu'on vous offrira quand même un cadeau. Et sinon, vous pouvez toujours nous appeler pour partager avec nous la construction de votre conscience, ce qui vous a marqué dans la vie, quelles strates vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
Peut-être que justement, Gaël nous le démontre, il faut pouvoir détruire une certaine pratique quotidienne, peut-être pour accéder à un nouveau soi, un soi soyeux. Soyons soi soyeux.
Mais il y a l'architecte Ledoux, le fameux Ledoux, qui a quand même, il a beaucoup plus fait de projets en fin de compte que de construction. Et mais c'est quand il travaillait pour lui. Enfin, c'était.
Mais quand elle parlait de manifeste, c'est ça que j'entendais moi. Le manifeste, par exemple, il y a un texte d'un architecte italien qui s'appelait La lettre de l'errant. Vous connaissez ça ?
Non.
Non, de Laurent ? Non,
L'errant, celui qui erre et qui, par son errance, finalement, il réussit à construire l'espace mental de son initiation à participer au monde. C'est très très beau, c'est un manifeste d'architecture. Alors là, et donc Ledoux
construisait, enfin il a très très peu construit, c'est un architecte. Alors il y a des
Gaël,
des
que pense Gaël de Ledoux alors?
Oui, qui a dessiné, mais énormément, je trouve c'est intéressant de dessiner de l'architecture, mais d'arriver à construire aussi une expérience spatiale, c'est...
Ah ben il a construit quand même, il y a des constructions qui sont absolument en plus exceptionnelles, et si on avait construit ces architectures utopiques...
Il n'est pas trop tard peut-être.
Non, il n'est pas trop tard, parce que en plus...
36-15 Bouygues.
Non, mais il existe évidemment des grands bouquins de Ledoux qui ont été réédités, où tu as absolument tous les plans, les cotes, etc. Demain, tu achètes un terrain, tu peux te faire une maison Ledoux.
Mais que fait Bouygues ?
Absolument sans problème.
Peut-être l'arrière-petit-fils aura une ombre de conscience qui lui permettra d'enfin construire quelque chose de digne de l'architecture.
Ben oui.
Parce que faire du béton, c'est pas raisonnable. Est-ce qu'il faut faire du béton ?
Un vaste sujet.
COP21, le retour du COP21.
Finalement, on y revient toujours.
Ben, cela dit, Le Corbusier a fait des choses en béton tout à fait.
Mais Le Corbusier était médiocre.
Non.
Lançons des polémiques.
il était médiocre, excusez-moi.
Ce qu'il a fait de Louis Souter, par exemple.
Oh, bah écoute, il l'a quand même beaucoup soutenu, non, Louis Souter, tout de même.
Non, il l'a vraiment fait glisser dans des abîmes.
Louis Souter.
Comme quoi, les autres, ça peut t'aider et t'élever, ou alors l'inverse, quoi. C'est un peu.
Quel autre ?
Les autres.
Il y a des autres qui, par définition, finissent par être un peu aigris.
Un peu aigris.
Ouais. Donc comme ils sont un peu gris, ils deviennent aigris à force d'être frustrés et d'être sous l'emprise de peu de conscience. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on choisit des Danny Blum ou des Gala de Jardin. C'est justement pour pas qu'il y ait d'invitation à la conscience. Parce que ce qui est intéressant dans les musiques qu'on écoute ici, c'est que c'est des musiques qui représentent avant tout des potentialités d'être.
Oui, et puis...
C'est pas de la musique au maître. C'est ça qui est intéressant dans l'architecture aussi. L'architecture peut proposer des types d'émotions extrêmement variées.
Bien sûr.
Oui. On n'a pas une nécessité absolue d'être dans un endroit aussi horrible de là où on est.
C'est très bien là où on est.
Oui, non, mais on est très content d'être là où on est parce qu'on est là, justement. Mais si on n'était pas là, si on était juste en train de subir cet ici sans être là, peut-être qu'on trouverait cet espace moins exaltant.
C'est tout à fait possible.
Comme on dit l'architecteuse. Alors, strate numéro 3 maintenant. Parce que, c'était
première strate, Ramoncho, tu te souviens ?
Eh ben moi, j'ai noté...
C'est ça le concours, en fait, c'est les strates.
Non, mais moi, je me suis déjà perdu parce que pour moi, la première strate, c'était l'arrière-grand-père.
Qui va de pair avec le grand-père.
C'était l'enfance.
Non, parce qu'elle l'a agglutiné avec le grand-père, alors que ça n'a rien à voir.
Ça a à voir par rapport à la lenteur, je pense, au long terme.
D'accord, donc c'était l'enfance, la deuxième c'est donc la génétique.
Voilà, la troisième c'est la première période d'architecture, la découverte de l'espace et des manifestes construits, parce que je trouve intéressant quand même de vivre le manifeste à un moment. La quatrième c'est on change de façon de voir les choses et on bouscule le programme. L'architecture, ce n'est pas la réponse à un programme, mais c'est la réponse à un lieu. Et du coup, la rencontre avec Alexandre Chemetov. Voilà.
Ça, on en a déjà parlé.
Oui,
ça, on en a déjà parlé. Ça fait deux fois que le nom est cité.
Je vois
c'est
que tu quatrième suis, strat.
Voilà.
La quatrième strat. Et la cinquième,
strat. La cinquième strate, hein, c'est la vie professionnelle pendant 15 ans, qui est mitigée, voilà. Mais malgré tout...
Alors le mythe IG, vous connaissez IG? IG était une divinité un peu statique, qui a du mal à sortir du cadre. Mais donc on a inventé les gygiens
et les mitigeurs qui, dans les salles de bain,
qui ont déconstruit le cadre pour permettre justement d'être hors cadre. Ce qu'était Dolphy à l'époque, parce que Dolphy était totalement hors cadre. À l'époque, le jazz était fait pour faire danser les dames.
Enfin, il y avait eu quand même des choses avant, mais c'est vrai qu'à un moment, il passe hors cadre au contact de... Oh, il y a une belle musique.
On a complètement coupé Gaël, qui essaie de nous parler de son expérience professionnelle.
C'est fait pour être interrompu, oui. Hein, c'est très bien.
On a cassé le cadre.
Je suis le cadre, voilà, je... casser le cadre.
Donc on continue avec, avec Dolphy, ou on continue avec, la vie professionnelle de Gaël?
Oui, soyons professionnels. Ouais, donc l'architecture aujourd'hui, en 1997.
Non, le cadre de la cinquième strate est fait justement pour être cassé. Parce que,
alors bon, c'était un cadre, ton bureau, ton agence où tu étais surmise?
Alors, j'ai commencé par faire partie d'un collectif d'architectes, on était 13.
Ça s'est défâché.
On se voit toujours. On a commencé ensemble. Ensuite, il y a eu des.
Il s'appelait
des
comment
groupes.
Le collectif?
Il s'appelait l'Atelier Excelsior, d'une pour plaque émaillée qu'on avait trouvée. Et finalement, Atelier Excelsior.
Et quelques
pourquoi
hôtels comme ça aussi.
Mais finalement, Excelsior, il y a eu plein de choses dans la ville. Il y a eu des bars, il y a eu des restaurants, des cinémas, il y a eu...
Et donc, vous avez fait plein de procès à toutes ces marques en les enseignant.
Et puis voilà, après, il a fallu gagner des sous. Parce que ça fait partie aussi du parcours.
Ça rend un peu perplexe. Oui, c'est fou, hein.
C'est vrai.
Moi, je suis assez finalement intolérant au blé.
Ouais. Tu vois, toujours gagner de l'argent, enfin.
Non, mais c'est l'histoire de choux, des choux, toujours des choux. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a ça laisse quand même un. Ça peut poser un creux.
Je crois qu'il y a Étienne qui veut dire quelque chose sur les sous, sur les choux.
Oui, ben.
Sur le blé.
Au niveau de la conscience, on peut associer bien-être et plaisir, et donc les plaisirs matériels. Et donc l'argent permet d'acquérir ce qu'on veut, une maison.
On peut aussi voler, hein.
Des vacances.
Et squatter, par exemple.
Ben, c'est ce que disait Groucho Marx. Il disait que l'argent, c'est quand même pas mal, ne serait-ce pour des questions pratiques.
Ouais, mais l'argent pour la renommée, pour la gloire, pour acquérir.
Pour la conscience augmentée, tu penses?
Non, je pense.
Tu penses à qui comme idole? Que nous sommes en paysage déique, où nous sommes rentrés dans l'espace mythologique de l'émission, parce que tout ça est extrêmement programmé.
Bah, Daniel Boom, comme tu dis.
Daniel Boom,
et
Jean-Claude Lagardère.
Voilà.
Donc tu penses que la conscience a à voir avec l'argent?
Oui, c'est un type de conscience.
La conscience par l'argent.
Pour le bien-être et le plaisir finalement futile.
Mais c'est peut-être le plaisir ultime, tu veux dire?
Ouais.
Bah bien, l'échange aussi.
C'est là, nous avons un conflit générationnel.
C'est le moment du conflit générationnel.
C'est toi le maître, en fait. Tu as tout compris de l'existence. D'abord, il est aux manettes.
Il peut couper ton micro comme ça en deux secondes.
Voilà. Te couper le sifflet.
Et puis finalement, ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut pouvoir accepter les jouissances de notre époque. Donc soyons-tu.
Oui, mais
soyons
champs,
quoi? Soyons-tu ou soyons quoi, comme on dit?
C'est pareil.
Soyons-tu.
Soyons quoi?
Ça dépend s'il nous tue.
Non mais tu te tues. Non mais tu te tais. Comment on dit? On se tue?
On est quoi?
On s'est tue.
On s'est tue.
Ouais. On s'est tue.
On s'est tue. Offrons 5 secondes. Mais tue-toi.
Pardon.
La minute de silence.
Non, parce qu'une minute, c'est un peu long, parce qu'après, il y a la machine anti-blanc qui va démarrer, tout ça, ça va être compliqué.
Vas-y, balance.
Bon, alors nous allons dolphier.
Voilà.
Donc Dolphy, cette fois, alors il rencontre des gens du Third Stream. Alors, le Third Stream,
traduisons en français.
C'est le troisième courant, en fait. Donc il y a eu dans le jazz, à un moment, il y a des gens comme Gunther Schuller ou
on ne sait pas qui c'est, George Gunther Schuller.
C'était des musiciens, des compositeurs.
Blanc, noir.
Qui ont voulu... blanc. Blanc. Schuller, il est blanc.
Comment on peut dire que quelqu'un est blanc, d'ailleurs?
Il est tout blanc.
Mais oui, mais est-ce que ça veut dire que notre conscience est blanche?
Non, par contre, en musique, ça veut dire quelque chose. C'est pas la même façon d'apprendre.
Oui, on sait qu'une blanche vaut deux noires.
Mais c'est pas par hasard si ce sont ces gens-là.
Mais en musique, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais oui, c'est terriblement raciste.
Et c'est pas par hasard si ces gens-là ont créé ce fameux First Stream, donc ce troisième courant, qui était une expression musicale qui cherchait à concilier musique noire et musique classique. Donc ils voulaient mélanger. Voilà. Et ça a donné un truc un peu mou. Qui était une musique un peu aseptisée, qui n'a pas tellement marché.
Ça peut être mou et doux, hein.
Oui, mais ça dérangeait personne et ça n'a pas marché en fin de compte. Mais Dolphy, qui était toujours prêt à...
Et c'est où? Ça vient des États-Unis,
hein? Oui, États-Unis, bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Et il y avait Bill Evans aussi, quand même, qui a été... un pianiste blanc.
Est-ce que vous savez ça? Pourquoi bien sûr? Est-ce que vous avez lu le plan Marshall? On en a déjà parlé ici?
Pas du tout, non.
Pas encore.
Le plan Marshall, non.
Alors, dans le plan Marshall... Parce que les États-Unis ont un plan, vous savez.
Ah.
Et le plan Marshall qu'il a fallu signer pour sortir de la guerre stipulait clairement que la culture nord-américaine devait être prédominante sur les cultures locales, en particulier le cinéma et la musique.
Mmh. Mais pas la musique noire, je pense.
Ils n'avaient pas prévu cette petite chose-là.
Alors que ça a été quand même, c'est la grande musique américaine.
C'est d'abord la grande invention des États-Unis du XXe siècle. Comme l'explique bien ce livre de Hirschborn, Une courte histoire du XXe siècle.
Non.
Et puis à propos de jazz, beaucoup de jazzmen se sont exilés, sont sortis des États-Unis pour venir en France,
en Europe.
Absolument.
Dont Eric Dolphy, on va en parler plus tard.
Mais il faut se dépêcher parce qu'il ne nous reste plus qu'une demi-heure.
Ah bon?
Bah oui.
Une demi-heure.
32 minutes exactement.
Bon, et alors nous allons passer tout de suite Round Midnight de Eric Dolphy.
Ça veut dire autour de minuit.
Donelis à la trompette, Dave Baker au trombone, Eric Dolphy donc à l'alto, George Russell au piano, Stephen Swallow à la basse et Joe Hunt à la batterie, enregistré le 8 mai 1961. C'est parti.
C'est pas vraiment parti. Oui, c'est parti.
Si, c'est parti.
C'est une contrebasse. Thank you.
C'était donc Run Midnight par Eric Dolphy à l'alto, dans un disque de George Russell qui s'appelait Aesthetic et qui est sorti le 8 mai 1961.
Résonance magnétique.
22h04 sur Radio Campus Paris, on est toujours dans Résonance Magnétique.
Encore un indice.
Pour notre concours, il faut nous appeler les gens au 01 72 63 46 84.
Les gens, tu les appelles les gens.
Les gens.
La lettre dit encore. Je vous écris de la cité du temps interrompu. La catastrophe lente ne s'achève pas. Notre vie s'écoule, notre vie s'amenuise. Et nous attendons encore le moment qui repasse le mur. Donc, c'est quand même facile de deviner qui c'est, non ? Il est aussi peintre. Et il est essentiel.
Allez ! Il y a tellement de peintres essentiels.
Mais des peintres qui écrivent.
Il y en a pas mal quand même.
Pas tant que ça.
Bon, alors, si vous avez la réponse, si vous savez qui a écrit ce texte, appelez-nous. On aura une surprise après.
Ne dis pas le nom.
Ramon Chou vous fera une chanson.
Non, mais le prix, il est clair. Il est limpide.
C'est quoi ?
Ah ben non, on le dira au vainqueur seulement.
D'accord, donc 01 72 63 46 84.
Et donc, introuvable ton histoire.
Et donc, la strate numéro 6.
C'est aujourd'hui.
Ah, c'est pas mal. Et alors, est-ce que tu arrives à naviguer aisément d'une strate à l'autre ? Parce que c'est ça l'idée. Quand tu lis Émile Plateau, tu vois, de Deleuze Guattari, il parle de plateau parce qu'en fait, il parle de strates. Et il pense que nous ne sommes pas... J'ai entendu dire qu'il y a un âge où on peut faire des bêtises. Il y a un âge de l'enfance où on a le droit d'être un peu inconscient. Il y a l'époque de l'expérience, l'adolescence. Il y a un âge pour ça, paraît-il.
Ah bon ?
Et eux... pense tout à fait justement que l'âge n'est pas une question de biologie. L'âge est une question qui nous traverse quotidiennement. On peut être pendant 5 minutes un adolescent, pendant 10 minutes quelqu'un nous salue. Oh, oui. Vous l'avez vu ? C'est un esprit.
Un white spirit.
Vous êtes celui de Dolphy.
Et donc, est-ce que tu arrives à naviguer d'une strate à l'autre avec aisance ? Parce que c'est ça, en fait. Peut-être avoir une conscience, c'est notre capacité,
nos mondes parallèles,
de naviguer d'un état à un autre et de s'adapter finalement à tout type de situation sans se sentir victime ou oppressé ou affligé par ce qui pourrait être, tout du moins en apparence, des choses pour le moins paradoxales comme l'existence.
Le travail artistique réveille les strates, effectivement.
Mais que le travail artistique ?
En tout cas, la production artistique, là.
Mets ta tête où il faut.
La production.
Parce qu'elle a tendance tout d'un coup à parler d'une certaine façon, ce qui est très élégant. Mais on a quand même du mal.
C'est un peu mieux dans le micro.
Pas l'habitude de la radio. Mais oui, la pratique artistique, qui date d'il y a un an et demi.
Pour le monde ou pour toi ?
Pour moi.
Il n'y a qu'un an et demi.
A tendance à réveiller ses strates, oui.
Alors, comment tu t'en sors avec toutes ces strates ?
Oh là, la tête qu'elle fait.
Vous me le dire, puisqu'il y a un travail en cours, la galerie. Non. Comment je m'en sors ? Plutôt mieux que dans un cadre... dans lequel je m'en sortais plus, oui.
Pourquoi on dit qu'on s'en sort ? Pourquoi on dirait pas qu'on y rentre ? Comment t'y rentres alors ?
On ne sait pas par où on est rentré.
C'est comme le fait de gagner sa vie, comme si c'était juste une histoire de loterie. Paix, finalement, ça vaudrait même pas la peine de faire des études ou de travailler puisqu'on la gagne.
Non, est-ce que gagner, c'est forcément
pourquoi est-ce qu'on dit qu'on s'en sort ? On s'en
pas
sort.
Forcément.
Non, mais pourquoi s'en sortir ? Parce qu'il s'agit d'y rentrer quand même dans la question de l'art, non ?
Oui, ou d'en sortir de soi, ouais, je ne sais pas. Ça dépend du point de vue, extérieur ou intérieur.
Quel point de vue on se place, oui, c'est vrai, c'est après tout. Soit on est dedans, soit on est dehors.
On peut être les deux à la fois, puisque c'est deux strates différentes.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr, on peut être les deux. Les cubistes, ils étaient à la fois dedans, dehors, derrière.
Il y en a qui dansent dessus aussi. Bon, donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'en sort? On pourra poser cette question dans une prochaine émission. Pourquoi est-ce qu'on s'en sort?
Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir, d'ailleurs? Parce que lui, ce qu'il dit...
Ah.
Ce qu'il continue de dire...
Et qu'on n'a toujours pas trouvé.
72, 63, 46, 84.
Tu vois, par exemple, je vous écris d'un pays autrefois clair... Je vous écris du pays du manteau et de l'ombre. Nous vivons depuis des années, nous vivons sur la tour du pavillon en Berne. Oh, été, été empoisonné, et depuis c'est toujours le même jour, le jour aux souvenirs incrustés. Le poisson pêché pense à l'eau tant qu'il le peut.
C'est pas Gerasim Luka?
Mais pas du tout, Gerasim Luka, il aurait fait le poids, oui, mais... le poids d'hier, le poisson, ils songent, ils songent à la veuve. Mais ce n'est pas Gerasim Luka.
Il n'est pas peintre.
Il est pas... Non, mais il est plasticien.
Oui, il est plasticien, mais il n'est pas peintre.
Il a fait des plasticeries.
Donc, mauvaise
plasticerie. On ne sait toujours pas qui c'est.
Voilà. Toujours pas.
Mais tant qu'on ne nous appellera pas, nous ne le saurons pas.
Mmh, c'est vrai.
On ne le dira pas.
D'ailleurs, il suffit que quelqu'un nous appelle pour que je le dise.
C'est ça. C'est appelez-nous, quand même plus facile il va que le ça. Dire. Pas besoin de le savoir.
Appelez-nous, on veut juste 0, penser 72, que quelqu'un 63, existe.
46, appelez-nous, je tue ce chien.
La dernière fois, on appelait Joséphine, mais là, elle est là, donc elle ne peut pas nous appeler. Donc, quelqu'un d'autre, qui que ce soit, voilà. Alors, moi, quand j'ai regardé un peu pour préparer cette émission, je suis allée sur l'Internet.
Ah tiens,
ouais, tu vois, c'est pas mal l'internet, il y a pas mal de choses.
Ouais, on m'a dit que c'était pas mal.
Et alors c'est assez rigolo parce que du coup il donne des conseils pour donner un sens à sa vie.
Mais pour la conscience ou pour donner un sens?
Donner un sens, mais c'est un peu l'idée de la conscience, tu vois.
Tu penses toi que c'est ça, c'est
la
lié?
La conscience.
Toi tu penses que c'est lié la question du sens de l'existence à la question de la conscience?
Bah je crois, ouais. Bah tu vois ce que je disais tout à l'heure, Jean-Paul Sartre, qui explique donc que l'existence précède l'essence. Donc jusque là, jusqu'à Jean-Paul Sartre, on se dit on est une essence, on est quelque chose, voilà.
On est une essence ou on est un sens?
On est une essence. E2S.
Tu penses à un sens dans le sens, pas le sens, le sens.
Voilà, le sens, le sens. Et donc,
pas le sens sensuel, ce cher Jean-Paul, le sens direction.
Jean-Paul me dit, que nenni, vous vous êtes trompé jusque-là.
Que nenni, c'est son vocabulaire.
Non. Finalement, moi je
dis
que...
C'est le nouveau livre de Jean-Paul Sartre.
L'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on va faire de nous-mêmes... qui va... Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle. On va continuer à parler un peu de Jean-Paul Sartre, parce que j'adore Jean-Paul Sartre.
Alors, c'est vrai, tu aimes Jean-Paul Sartre?
J'adore Jean-Paul Sartre.
Mais c'est incroyable, il y en a une. Il y en a encore une qui aime Jean-Paul Sartre.
Je pense qu'on est nombreux à aimer Jean-Paul Sartre. Bah oui, quand même. Mais et donc, non. L'existence précédente, c'est-à-dire qu'en fait, on se construit, et chaque jour, on va se construire chaque choix, chaque décision qu'on va prendre.
Chaque
nous
choix, comment tu dis chaque choix.
Et
choix.
C'est qu'à la fin de notre vie, qu'on est ce qu'on est, en fait.
Mais non, on n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on devient. J'ai changé de son.
C'est exactement ce qu'il dit. On devient ce que tu es. On a changé de son parce qu'il y a un auditeur.
Ce n'est pas la même chose. Il y a un
Il y a quelqu'un qui nous appelle.
Alors.
Eh ouais.
Auditeur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qui êtes-vous?
Une auditrice.
Mystérieuse.
Non, je me suis trompée, je ne connais pas du tout cette voix, pardon.
Voilà, mais ça ressemble un peu à la voix de Jean-Paul Sartre.
Voilà, exactement.
De Simone de Beauvoir.
Bingo.
Alors, est-ce qu'elle a trouvé l'auteur?
Elle a trouvé Henri Michaud.
Bravo.
Bravo.
Alors là.
Qu'est-ce qu'elle a gagné, auditrice?
Elle sera invitée à cette émission la prochaine fois.
Ah, ça tombe bien parce qu'on allait justement l'inviter à cette émission la prochaine fois.
Donc c'est parfait, ben, bravo, hein, vous êtes vraiment formidable. Qu'est-ce qui vous a mis l'eau à l'oreille?
Ben, les mots, le pays de l'ombre, etc.
Ben oui, c'est surtout je vous écris d'un pays autrefois, c'est ça la clé. Mm-hmm. Mais le premier, vous n'auriez pas su. L'année maudite, année collée, année nausée.
Alors, chère auditrice,
oui,
est-ce que tu peux nous dire ce qui construit ta conscience, ce qui augmente ta conscience? Est-ce qu'il y a des éléments dans votre vie qui vous ont permis de construire cette conscience? Est-ce qu'il y a eu des fondations? Est-ce qu'il y a des niveaux qui ont été élevés ensuite?
Peut-être d'abord une définition de la conscience de la part de l'auditrice.
Chère auditrice, est-ce que vous avez envie de définir la conscience?
Non.
Non.
Non, parce que je trouve ça, la conscience, je trouve ça très, très chiant.
Très pitoyable, merci, ça nous fait très plaisir.
On est content d'être là avec vous ce soir, ça fait plaisir.
Non, mais c'est, enfin bon, ça entraîne à chaque fois des problèmes quand on a conscience des choses. Il faut avoir conscience des choses.
Ah ben voilà une première contradiction.
Est-ce qu'il voudrait mieux être
en même temps, la conscience en soi, c'est une espèce de chape qui nous...
paralysante.
Qui est au-dessus de nous et qui nous empêche d'être libre.
Je suis bien d'accord alors ça.
Donc
voilà. Soyons inconscients.
Absolument.
Bon.
L'errance, c'est quand même un beau mode de vie.
Mais oui, mais
l'improvisation.
Pourquoi ce serait contradictoire avec la notion de conscience ?
Et conscience de quoi ?
Mais justement, on a parlé de l'architecture de la conscience, mais chacun met dans ce mot ce qu'il veut.
Oui.
Donc pour vous, c'est quelque chose qui est un peu négatif. Parce que c'est associé à quoi ? Une idée de religion ? Une idée de ce qui reste de nous après ? Ça a à voir avec l'âme ?
Non, c'est pas une idée de religion, c'est par rapport à probablement à une éducation où on nous rendait...
Sois conscient de ce que tu fais, petit malheureux.
Mais peut-être oui, c'est ça, c'est cette idée que tu sais, quand t'es petit, tu peux prendre plein de risques sans jamais t'inquiéter. Tu te dis, ouais, je peux descendre ce truc en vélo sans les mains. Et puis quand tu grandis, t'es conscient du danger.
Ah, c'est ça la conscience.
Ça te met des limites.
Ah, c'est ça la conscience.
Mais c'est vrai.
Moi, je voyais pas ça comme ça du tout.
Qu'est-ce que tu as imaginé dans conscience ?
Une espèce d'architecture intérieure qui nous optimise et qui nous permet de faire hop, 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 de sauter d'un endroit à l'autre et d'être plus libre dans notre construction.
Mais je crois qu'on passe par moment de la conscience à l'inconscience. On vit
donc
pas tout le temps en conscience et en inconscience.
La conscience pour le commun des mortels, excusez-moi, chère auditrice, ce serait donc quelque chose de restrictif et pas d'optimistique.
Si, cela peut être.
Cela peut être ou peut-être ?
Peut-être. Peut-être.
Du verbe
pouvoir. Cela peut l'être.
Comme on peut une pomme.
Oui. Voilà, donc non, et là, je pense qu'il y a les deux dimensions, effectivement, de la conscience. Mais c'est... j'arrive un peu là, en fin d'émission, et comme un cheveu sur la soupe.
Pas du tout.
Donc je n'ai pas entendu ce qui s'est dit auparavant.
On a dit des choses idiotes.
Inconsciente d'ailleurs.
Non, mais c'est parce que c'est vrai que la définition de la conscience, on n'a pas un dictionnaire sous la peau, enfin sous la main,
non.
Je veux dire.
Non.
On a peut-être un dictionnaire sous la peau d'ailleurs. Mais parce que comment ça appeler cette matière qui s'enrichit de nos rencontres, nos lectures visuelles, auditives, etc. Comment on peut appeler cette zone sinon l'appeler conscience ?
Non, tu ne l'appelles pas obligatoirement conscience.
Ouais, mais
tu l'appelles
pas
comment ?
Ben
non, c'est, c'est la culture, c'est
ça va où ?
L'empilement des savoirs.
Ça va où ?
Ben, ça nourrit.
Mais ça nourrit quoi ?
Ben, ton esprit.
Nous, notre être, notre façon d'être,
de se comporter.
Et donc, comme d'habitude, j'avais tout compris de travers.
Alors que la conscience, c'est...
Non mais
c'est attendez on va à la pêche vous voulez laisser un peu de mou la conscience
il y a science déjà
mais c'est savoir avec
il y a con et il y a science
oui c'est ça c'est science c'est savoir absolument ce que dit Mélanie savoir avec
mais donc c'est ce qu'on enrichit c'est le savoir qu'on se construit avec notre existence
Oui, ça peut être une dimension de la conscience.
De se donner un sens, quelque part.
Ah, tu veux revenir à ton exercice de sens.
Oui, mais je pense que c'est important. Je pense que la conscience se construit avec le sens qu'on se donne.
On pourrait faire une version du livre de Kono, exercice de style, exercice de sens.
Mm-hmm.
Où on tourne autour du sens. Mais donc, ce n'est pas conscience, le mot qu'il fallait choisir pour cette émission. L'architecture de la conscience.
Bon, on recommence tout, alors. Tant pis. Non, mais si, l'architecture de la conscience fonctionne quand même.
Si, c'est d'explorer ce mot et toutes ses acceptions, donc c'est pas mal.
Mais c'est chiant.
Pour moi, oui. Mais bon, après, d'autres peuvent y trouver du plaisir.
Il y a la conscience de soi aussi, tu vois, le fait
voilà.
Il y a plein d'exceptions différentes. Oui, Étienne.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation entre la conscience et la spiritualité ?
Oula !
Oula, oui. Oula !
Oula,
c'est parti.
Pour moi, non.
Mais pour certains, oui.
Mais pour certains, ils mettent de la spiritualité partout. Spiritualité, c'est comme dire...
Oui, mais la musique, il y a de la spiritualité dans la musique, il y a de la spiritualité.
Tu veux dire
oui,
que c'est humoristique.
Non, parce que spiritualité, c'est pas forcément à raccrocher à la religion.
Absolument.
C'est deux choses différentes. Ouais.
Absolument.
Mm. Bah, la conscience, dans la conscience, c'est une idée de présence aussi, hein, d'être là. Mm.
Bah, c'est pour ça que j'ai l'impression que plus on en découvre, plus on en découvre, d'ailleurs, plus on devient présent. Et que l'enrichissement de nos palettes perceptives, justement, nous permet d'être plus présents, donc plus conscients. Donc là, la conscience n'est pas chiante. Je ne suis point d'accord avec vous.
Non, oui.
Non, oui, non. De toute façon, ce qui est bien, c'est de ne pas être d'accord. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, ce qui fait qu'on ne dit plus rien. Alors que si on se contredit...
C'est tout à fait vrai, je suis complètement d'accord avec toi.
Moi, j'aurais plutôt tendance à préférer l'inconscience, mais bon.
Non, moi, la surconscience.
Quelque chose de poétique, et l'inconscience, c'est, tu vois.
Donc, ça nourrit
l'improvisation, le vague, enfin, l'indétermination, quelque chose de flottant.
Donc, on a une inconscience.
La conscience a quelque chose, a une dimension qui arrête, je trouve, qui fixe.
La conscience.
Oui.
Oui, pas l'inconscience.
La conscience. Oui, oui, alors que l'inconscience. Oui, oui, oui. Et plus dans les ronds.
Ah, mais c'est parce que vous faites ça en deux mots, vous. Moi, j'avais fait ça avec l'apostrophe. La conscience.
Apostrophe à conscience.
Ah, conscience. Et le A est
sans conscience.
Alors.
Oui. Sans conscience.
Nourrir la conscience.
Ouais. C'est pas mal.
Oui.
Donc la conscience n'est pas en mouvement, alors. Ne progresse pas.
La conscience.
La conscience ou la conscience.
La conscience.
La conscience ou
non,
la conscience,
la conscience.
Si, de toute façon, tout est en mouvement, rien n'est fixe.
Tout est en mouvement,
dans ce monde.
Continuel, c'est ça qui est beau.
Ben voilà, donc, encore une fois, on cherche un sens dans la conscience.
Pourquoi chercher un sens?
Parce qu'on cherche toujours un sens.
Ah bon?
Ben, je crois quand même. Enfin, il y a des choses qu'on fait un peu par hasard, mais tu vois, regarde, Gaëlle, elle fait des choses comme ça, sans penser qu'il y a des choses qui l'ont poussée à le faire, et puis à un moment donné, elle se rend compte qu'en
mais
fait...
Mais tout l'a poussée à le faire.
Il y a des strates qui l'ont poussée à le faire. Oui, mais elle n'en avait pas conscience. Et hop, elle a eu la conscience de ça. Et donc, en fait, dans le choix du sens, dans la recherche du sens, naît
la conscience.
La conscience,
bah, la conscience avec voilà. L'apostrophe.
Je reviens sur ce que tu dis, Mélanie. Ne pas avoir de sens, c'est quand même très triste, non?
Eh bien,
ne pas se donner un sens.
Eh bien, figurez-vous que dans les conseils que j'ai trouvés sur Internet, le premier pour trouver un sens à sa vie, c'est de ne pas en chercher.
Ah bah oui, ça c'est...
Oh. Voilà. Ne pas chercher de sens
donc
pour trouver un sens.
À toi.
De toute façon, tout ça n'a aucun sens.
Mais viens à toi. C'est comme l'amour. Ne pas le chercher pour le trouver.
Mais on le trouve jamais.
Peut-être que si.
Ah bon.
Et donc la conscience,
c'est lui
ne pas la chercher pour la trouver.
Oui.
Et voilà.
Exactement.
Peut-être que si on ne cherche pas à être conscient, on le devient.
Bah c'est en fonction de notre curiosité.
C'est
l'amour qui nous trouve, c'est pas nous qui trouvons l'amour.
Et bien figure-toi que d'ailleurs, le conseil numéro 3 te plairait beaucoup, Ramonjo, puisqu'il faudrait embrasser le doute pour trouver un sens à sa vie et être conscient ensuite de ce
c'est
sens.
Le doute qui nourrit, c'est le doute, ça te fait avancer, ça c'est sûr.
Ou ça peut te tataniser.
Comme la conscience.
Parce qu'il y en a qui se trouvent au tatami
oui,
par le doute.
Oui, oui, le doute aussi peut te terrasser. Mais enfin, le doute est intéressant quand même.
Bah, s'il y a une terrasse, au moins il y a une vue. Hein.
Faut pas parler des terrasses en ce moment, c'est un peu un sujet délicat.
Oh. Et voilà, le plombage qui revient.
Eh oui, oui.
Famille de dentistes.
En tout cas, merci beaucoup, chère auditrice, de
Donc vous serez invitée à notre prochaine émission qui aura lieu en janvier.
Le premier mercredi du mois de janvier.
Qui plutôt...
Aïe, aïe, aïe.
Vous ne serez pas là.
Mais je pense que je serai peut-être en Picardie.
Ah mince,
ah bah,
qu'est-ce que vous faites en Picardie?
On pourrait faire une émission Picarde.
Tout à fait.
Ah bah donc, oui, mais il faudra vous... transporter
on se déplacera.
Dans des lieux.
Il paraît qu'on peut se déplacer.
Tout à fait. Donc on a un studio mobile à Radio Campus Paris.
Oui. Donc on pourra faire ça en Picardie.
Pourquoi pas, ce serait pas mal, non ?
Il faudrait héberger toute l'équipe, hein. Ça va être compliqué. Mais,
donc nous verrons où la Picardie aura glissé.
Oui, en plus, elle existera-t-elle toujours ?
Et justement, on va parler d'éducation à la prochaine émission avec vous, chère auditrice. Mmh. Voilà.
Donc,
je pense que ça sera fort à propos.
En tout cas, bravo d'avoir trouvé Henri Michaud, qui était quand même un formidable peintre. Et excellente soirée à vous.
À vous de même.
À bientôt.
Merci.
Bonne soirée.
Et alors, il nous reste... alors, Gaëlle,
quelques minutes.
Gaëlle, si vous n'avez plus que quelques minutes pour dire ce que vous avez à dire. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on peut rien dire, du coup.
Bah, on peut peut-être conclure avec
un peu de musique.
Un peu de musique.
Conclure. Non. Parce que nous, on continue hors antenne, en fait. Notre vie est perpétuellement comme nous, ça, en fait.
Oui, puis on va continuer à écouter Eric Dolphy, bien évidemment.
Mais c'est clair. J'espère qu'au moins une personne aura découvert Eric Dolphy.
Alors, on va finir sur une note un peu triste, puisque Dolphy se produisait le soir du 28 juin 1964 au Club Tangent à Berlin et n'arrivait pas à jouer. Il s'est effondré sur scène et l'hôpital d'Arenbach, où les médecins l'ont accueilli, l'ont dirigé vers le service des drogués. Puisqu'il était noir et qu'il jouait du jazz, il était évident qu'il était drogué. Ils n'ont pas diagnostiqué qu'il avait un fort taux de sucre dans le sang dû au diabète. Et c'était la seule drogue que Dolphy avait prise de toute sa vie, c'était le sucre, dont il se nourrissait sans arrêt.
Mais le Don Cherry disait d'ailleurs, tout ce qui est cristal est dangereux. Et le sucre est certainement le cristal le plus dangereux.
Ben oui, Dolphy en est mort. Et donc il est mort effectivement le 29 juin 1964 d'une crise cardiaque, victime des idées toutes faites et accessoirement du diabète.
C'est bête.
C'était « Jiwi » d'Eric Dolphy qui a été enregistré le 30 août 1961, tiré de l'album « Berlin Concert ». Et « Jiwi », ce sont les initiales du trompettiste Gerald Wilson.
Résonance magnétique.
22h27. C'est la fin de cette émission, c'est triste. On se revoit dans un mois, le 6 janvier.
Le 4 ou le 6 ?
Le 6, mercredi 6 janvier, on sera peut-être en Picardie pour fêter
peut-être,
ça.
Peut-être.
Le début de l'année 2016, ça sera très bien, on parlera éducation avec notre auditrice.
Absolument, sur une école, pourquoi faire ?
Voilà, vous pourrez déjà nous appeler, vous pourrez pas nous appeler sur Radio Campus Paris puisqu'on sera ailleurs, on vous donnera le numéro de téléphone
d'ailleurs.
C'est ça, exactement, d'ailleurs. Et tout de suite, ça sera Future Basics, mais Alain n'est pas là, malheureusement, pour faire la transition. Est-ce que tu veux faire Alain ?
Je ne connais pas la voix d'Alain, comment est la voix d'Alain ?
Pas du tout comme ça, mais ça lui fera plaisir,
c'est je pense. La voix d'Alain, c'est comme ça. Bonsoir, je suis Alain.
Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans Future Basics après ou pas du tout ? Est-ce que c'est indiqué sur notre ordinateur ?
Pas du tout.
Ah bon, c'est pas du tout.
Alors, soirée sur le futur, pas du tout. Donc, pas du tout de futur, donc le futur est présent. À tout à l'heure.
À tout à l'heure sur Future Basics. La soirée continue sur Radio Campus Paris. Vous entendrez donc Future Basics.
Merci Joséphine.
Enregistré, les gens ne sont pas en studio. Oui, merci Joséphine.
Merci Joséphine.
Notre
merci
discothécaire.
Joséphine. Ça pourrait être le nom d'une émission. Merci Joséphine.
C'est vrai. Un peu une émission de cuisine, par exemple, ça serait bien.
Tu vois, le parti pris totalement incroyable. Eh ben, venant d'une fille, eh ben, c'est dit joli.
Ah oui, ça n'a rien à voir avec une fille. Propre, tu sais très bien propre. Que les plus grands chefs sont tous des hommes, ça va. C'est bon, on sait très bien que la cuisine, c'est pas réservé aux femmes.
Les plus grands hommes sont tous des chefs. C'est ça. Les plus grands hommes sont des femmes.
Les plus grands hommes sont des femmes. Merci à Gaëlle. Merci Gaëlle Olson.
Merci à vous.
On le rappelle, hein, vous pouvez voir les travaux, les œuvres de Gaëlle Olson chez Sometime Studio, une galerie qu'on connaît bien, qui est située dans le 3e arrondissement au 26 rue Saint-Claude. Voilà, vous pouvez aller voir donc, cette exposition jusqu'au 18 décembre.
Voilà.
Quoi d'autre ? Eh bien, merci à Philippe. Merci Philippe Ducat. Tu nous fais toujours découvrir plein de choses passionnantes. On espère que tu seras encore avec nous.
Et surtout, découvrez le travail de Philippe Ducat, car Ducat est un grand architecte de la conscience.
C'est vrai.
Parce qu'il met en forme l'accessibilité de l'hermétique.
Exactement. On en parlera en janvier. Merci à tout le monde. Merci à Étienne, à la technique. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus Paris. Et puis, un joyeux Noël, c'est ça, non ? Et une bonne année, tout ça ?
Absolument.
Oui, joyeux Noël.
Allez, à tout à l'heure.
Bonne soirée à tous.
Joyeux
salut.
Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.